Consuelo, livre 2, chapitre 49. La chanoinesse, interdite, n'osa lui répondre un seul mot. Il y avait dans son air et dans son maintien quelque chose de si absolu que la bonne tante en eut peur et se mit à lui obéir d'instinct avec un empressement et une ponctualité sans exemple. Le médecin, voyant son autorité complètement méconnue et ne se souciant pas, comme il le raconta plus tard, d'entrer en lutte avec un furieux, prit le sage parti de se retirer. Le chapelain alla dire des prières, et Albert, secondé par sa tante et par les deux femmes de service, passa toute la journée auprès de sa malade, sans ralentir ses soins un seul instant. Après quelques heures de calme, la crise d'exaltation revint, presque aussi forte que la nuit précédente, mais elle dura moins longtemps, et lorsqu'elle eut cédé à l'effet de puissant réactif, Albert engagea la chanoinesse à aller se coucher et à lui envoyer seulement une nouvelle femme pour l'aider pendant que les deux autres iraient se reposer. « Ne voulez-vous donc pas vous reposer aussi, Albert ?» demanda Wenceslas en tremblant. « Non, ma chère tante, répondit-il, je n'en ai aucun besoin. »« Hélas, reprit-elle, vous vous tuez, mon enfant. Voici une étrangère qui nous coûte bien cher. » ajouta-t-elle en s'éloignant, enhardie par l'inattention du jeune comte. Il consentit cependant à prendre quelques aliments, pour ne pas perdre les forces dont il se sentait avoir besoin. Il mangea debout dans le corridor, l'œil attaché sur la porte, et dès qu'il eut fini, il jeta sa serviette par terre et rentra. Il avait fermé désormais la communication entre la chambre de Consuelo et celle d'Amélie, et ne laissait plus passer que par la galerie le peu de personnes auxquelles il donnait accès. Amélie voulut pourtant être admise, et feignit de rendre quelques soins à sa compagne. Mais elle s'y prenait si gauchement, et à chaque mouvement fébrile de Consuelo, elle témoignait tant d'effroi de la voir retomber dans les convulsions, qu'Albert, impatienté, la pria de ne se mêler de rien et d'aller dans sa chambre s'occuper d'elle-même. « Dans ma chambre ?» répondit Amélie. « Et lors même que la bienséance ne me défendrait pas de me coucher quand vous êtes là, séparée de moi par une seule porte, presque installée chez moi, pensez-vous que je puisse goûter un repos bien paisible avec ces cris affreux et cette épouvantable agonie à mes oreilles ?» Albert haussa les épaules et lui répondit qu'il y avait beaucoup d'autres appartements dans le château, qu'elle pouvait s'emparer du meilleur, en attendant qu'on pût transporter la malade dans une chambre où son voisinage n'incommoderait personne. Amélie, pleine de dépit, suivit ce conseil. La vue des soins délicats et pour ainsi dire maternels qu'Albert rendait à sa rivale lui était plus pénible que tout le reste. « Oh, ma tante !» dit-elle en se jetant dans les bras de la chanoinesse, lorsque celle-ci l'eut installée dans sa propre chambre à coucher, où elle se fit dresser un lit à côté d'elle. « Nous ne connaissions pas Albert. Il nous montre maintenant comme il s'est aimé. » Pendant plusieurs jours, Consuelo fut entre la vie et la mort. Mais Albert combattit le mal avec une persévérance et une habileté qui devaient en triompher. Il l'arracha enfin à cette rude épreuve. Et dès qu'elle fut hors de danger, il la fit transporter dans une tour du château où le soleil donnait plus longtemps et d'où la vue était encore plus belle et plus vaste que de toutes les autres croisées. Cette chambre, meublée à l'antique, était aussi plus conforme au goût sérieux de Consuelo que celle dont on avait disposé pour elle dans le principe. Et il y avait longtemps qu'elle avait laissé percer son désir de l'habiter. Elle y fut à l'abri des importunités de sa compagne, et malgré la présence continuelle d'une femme que l'on relevait chaque matin et chaque soir, elle put passer dans une sorte de tête-à-tête avec celui qui l'avait sauvée les jours languissants et doux de sa convalescence. Ils parlaient toujours espagnol ensemble, et l'expression délicate et tendre de la passion d'Albert était plus douce à l'oreille de Consuelo dans cette langue qui lui rappelait sa patrie, son enfance et sa mère. Pénétrée d'une vive reconnaissance, affaiblie par des souffrances où Albert l'avait seul assisté et soulagé efficacement, elle se laissait aller à cette molle quiétude qui suit les grandes crises. Sa mémoire se réveillait peu à peu, mais sous un voile qui n'était pas partout également léger. Par exemple, si elle se retraçait avec un plaisir pur et légitime l'appui et le dévouement d'Albert dans les principales rencontres de leur liaison, elle ne voyait les égarements de sa raison et le fond trop sérieux de sa passion pour elle qu'à travers un nuage épais. Il y avait même des heures où, après l'affaissement du sommeil ou sous l'effet des potions assoupissantes, elle s'imaginait encore avoir rêvé tout ce qui pouvait mêler de la méfiance et de la crainte à l'image de son généreux ami. Elle s'était tellement habituée à sa présence et à ses soins que, s'il s'absentait à sa prière pour prendre ses repas en famille, elle se sentait malade et agitée jusqu'à son retour. Elle s'imaginait que les calmants qu'il lui administrait avaient un effet contraire s'il ne les préparait et s'il ne les lui versait de sa propre main. Et quand il les lui présentait lui-même, elle lui disait avec ce sourire lent et profond et si touchant sur un beau visage encore à demi couvert des ombres de la mort. « Je crois bien maintenant, Albert, que vous avez la science des enchantements, car il suffit que vous ordonniez à une goutte d'eau de m'être salutaire pour qu'aussitôt elle fasse passer en moi le calme et la force qui sont en vous. » Albert était heureux pour la première fois de sa vie. Et comme si son âme eût été puissante pour la joie autant qu'elle l'avait été pour la douleur, il était, à cette époque de ravissement et d'ivresse, l'homme le plus fortuné qu'il y eût sur la terre. Cette chambre, où il voyait sa bien-aimée à toute heure et sans témoins importuns, était devenue pour lui un lieu de délices. La nuit, aussitôt qu'il avait fait semblant de se retirer et que tout le monde était couché dans la maison, il la traversait à pas furtifs, et tandis que la garde, chargée de veiller, dormait profondément, il se glissait derrière le lit de sa chère Consuelo et la regardait sommeiller, pâle et penchée comme une fleur après l'orage. Il s'installait dans un grand fauteuil qu'il avait soin de laisser toujours là en partant, et il y passait la nuit entière, dormant d'un sommeil si léger qu'au moindre mouvement de la malade, il était courbé vers elle pour entendre les faibles mots qu'elle venait d'articuler. Ou bien sa main, toute prête, recevait la main qui le cherchait, lorsque Consuelo, agitée de quelques rêves, témoignait un reste d'inquiétude. Si la garde se réveillait, Albert lui disait toujours qu'il venait d'entrer, et elle se persuadait qu'il faisait une ou deux visites par nuit à sa malade, tandis qu'il ne passait pas une demi-heure dans sa propre chambre. Consuelo partageait cette illusion. Quoiqu'elle s'aperçût bien plus souvent que sa gardienne de la présence d'Albert, elle était encore si faible qu'elle se laissait aisément tromper par lui sur la fréquence et la durée de ses visites. Quelquefois, au milieu de la nuit, lorsqu'elle le suppliait d'aller se coucher, il lui disait que le jour était près de paraître et que lui-même venait de se lever. Grâce à ces délicates tromperies, Consuelo ne souffrait jamais de son absence, et elle ne s'inquiétait pas de la fatigue qu'il devait ressentir. Cette fatigue était, malgré tout, si légère qu'Albert ne s'en apercevait pas. L'amour donne des forces aux plus faibles. Et outre qu'Albert était d'une force d'organisation exceptionnelle, jamais poitrine humaine n'avait logé un amour plus vaste et plus vivifiant que le sien. Lorsqu'au premier feu du soleil, Consuelo s'était lentement traînée à sa chaise longue, près de la fenêtre entr'ouverte, Albert venait s'asseoir derrière elle et cherchait dans la course des nuages ou dans le pourpre des rayons à saisir les pensées que l'aspect du ciel inspirait à sa silencieuse amie. Quelquefois, il prenait furtivement un bout du voile dont elle enveloppait sa tête et dont un vent tiède faisait flotter les plis sur le dossier du sofa. Un jour, Consuelo, en le lui retirant pour le ramener sur sa poitrine, s'étonna de le trouver chaud et humide, et, se retournant avec plus de vivacité qu'elle n'en mettait dans ses mouvements depuis l'accablement de sa maladie, elle surprit une émotion extraordinaire sur le visage de son amie. Ses joues étaient animées, un feu dévorant couvait dans ses yeux, et sa poitrine était soulevée par de violentes palpitations. Albert maîtrisa rapidement son trouble, mais il avait eu le temps de voir l'effroi se peindre dans les traits de Consuelo. Cette observation l'affligea profondément. Il eût mieux aimé l'avoir armée de dédain et de sévérité qu'assiégée d'un reste de crainte et de méfiance. Il résolut de veiller sur lui-même avec assez de soin pour que le souvenir de son délire ne vînt plus alarmer celle qu'il en avait guérie au péril et presque au prix de sa propre raison et de sa propre vie. Il y parvint, grâce à une puissance que n'eût pas troublé un homme placé dans une situation d'esprit plus calme. Habitué dès longtemps à concentrer l'impétuosité de ses émotions, et à faire de sa volonté un usage d'autant plus énergique qu'il lui était plus souvent disputé par les mystérieuses atteintes de son mal, il exerçait sur lui-même un empire dont on ne lui tenait pas assez de compte. On ignorait la fréquence et la force des accès qu'il avait su dompter chaque jour, jusqu'au moment où, dominé par la violence du désespoir et de l'égarement, il fuyait vers sa caverne inconnue, vainqueur encore dans sa défaite, puisqu'il conservait assez de respect envers lui-même pour dérober à tous les yeux le spectacle de sa chute. Albert était un fou de l'espèce la plus malheureuse et la plus respectable. Il connaissait sa folie et la sentait venir jusqu'à ce qu'elle l'eût envahi complètement. Encore gardait-il, au milieu de ses accès, le vague instinct et le souvenir confus d'un monde réel où il ne voulait pas se montrer tant qu'il ne sentait pas ses rapports avec lui entièrement rétablis. Ce souvenir de la vie actuelle et positive, nous l'avons tous, lorsque les rêves d'un sommeil pénible nous jettent dans la vie des fonctions et du délire. Nous nous débattons parfois contre ces chimères et ces terreurs de la nuit, tout en nous disant quels sont les faits du cauchemar et en faisant des efforts pour nous réveiller. Mais un pouvoir ennemi semble nous saisir à plusieurs reprises, et nous replonger dans cette horrible léthargie, où des spectacles toujours plus lugubres et des douleurs toujours plus poignantes nous assiègent et nous torturent. C'est dans une alternative analogue que s'écoulait la vie puissante et misérable de cet homme incompris, qu'une tendresse active, délicate et intelligente pouvait seule sauver de ses propres détresses. Cette tendresse s'était enfin manifestée dans son existence. Consuelo était vraiment l'âme candide, qui semblait avoir été formée pour trouver le difficile accès de cette âme sombre, et jusque-là fermée à toute sympathie complète. Il y avait dans la sollicitude qu'un enthousiasme romanesque avait fait naître d'abord chez cette jeune fille, et dans l'amitié respectueuse que la reconnaissance lui inspirait depuis sa maladie, quelque chose de suave et de touchant, que Dieu, sans doute, savait particulièrement propre à la guérison d'Albert. Il est fort probable que si Consuelo, oublieuse du passé, eût partagé l'ardeur de sa passion, des transports si nouveaux dans sa vie et une joie si subite l'eussent exalté de la manière la plus funeste. L'amitié discrète et chaste qu'elle lui portait devait avoir pour son salut des effets plus lents mais plus sûrs. C'était un frein en même temps qu'un bienfait. Et s'il y avait une sorte d'ivresse dans le cœur renouvelé de ce jeune homme, il s'y mêlait une idée de devoir et de sacrifice qui donnait à sa pensée d'autres aliments, et à sa volonté un autre but que ceux qu'il avait dévorés jusque-là. Il éprouvait donc à la fois le bonheur d'être aimé comme il ne l'avait jamais été, la douleur de ne pas l'être avec l'emportement qu'il ressentait lui-même, et la crainte de perdre ce bonheur en ne paraissant pas s'en contenter. Ce triple effet de son amour remplit bientôt son âme, au point de n'y plus laisser de place pour les rêveries vers lesquelles son inaction et son isolement l'avaient forcé pendant si longtemps de se tourner. Il en fut délivré comme par la force d'un enchantement, car il les oublia et l'image de celle qu'il aimait tint ses mots à distance et sembla s'être placée entre eux et lui comme un bouclier céleste. Le repos d'esprit et le calme de sentiment qui étaient si nécessaires au rétablissement de la jeune malade ne furent donc plus que bien légèrement et bien rarement troublés par les agitations secrètes de son médecin. Comme le héros fabuleux, Consuelo était descendu dans le Tartare pour en tirer son ami, et elle en avait rapporté l'épouvante et l'égarement. À son tour, il s'efforça de la délivrer des sinistres hôtes qu'il avait suivis, et il y parvint, à force de soins délicats et de respect passionné. Ils recommençaient ensemble une vie nouvelle, appuyés l'un sur l'autre, n'osant guère regarder en arrière, et ne se sentant pas la force de se replonger par la pensée dans cet abîme qu'ils venaient de parcourir. L'avenir était un nouvel abîme, non moins mystérieux et terrible, qu'ils n'osaient pas interroger non plus. Mais le présent, comme un temps de grâce que le ciel leur accordait, se laissait doucement savourer. Chapitre 50. Il s'en fallait de beaucoup que les autres habitants du château fussent aussi tranquilles. Amélie était furieuse et ne daignait plus rendre la moindre visite à la malade. Elle affectait de ne point adresser la parole à Albert, de ne jamais tourner les yeux vers lui et de ne pas même répondre à son salut du matin et du soir. Ce qu'il y eut de plus affreux, c'est qu'Albert ne parut pas faire la moindre attention à son dépit. La chanoinesse, voyant la passion bien évidente et pour ainsi dire déclarée de son neveu pour l'aventurière, n'avait plus un moment de repos. Elle se creusait l'esprit pour imaginer un moyen de faire cesser le danger et le scandale. Et, à cet effet, elle avait de longues conférences avec le chapelain. Mais celui-ci ne désirait pas très vivement la fin d'un tel état de choses. Il avait été longtemps inutile et inaperçu dans les soucis de la famille. Son rôle reprenait une sorte d'importance depuis ses nouvelles agitations, et il pouvait enfin se livrer au plaisir d'espionner, de révéler, d'avertir, de prédire, de conseiller. En un mot, de remuer à son gré les intérêts domestiques, en ayant l'air de ne toucher à rien, et en se mettant à couvert de l'indignation du jeune comte derrière les jupes de la vieille tante. À eux deux, ils trouvaient sans cesse de nouveaux sujets de crainte, de nouveaux motifs de précaution, et jamais aucun moyen de salut. Chaque jour, la bonne Wenceslava abordait son neveu avec une explication décisive au bord des lèvres. Et chaque jour, un sourire moqueur ou un regard glacial faisait expirer la parole et avorter le projet. À chaque instant, elle guettait l'occasion de se glisser auprès de Consuelo, pour lui adresser une réprimande adroite et ferme. À chaque instant, Albert, comme averti par un démon familier, venait se placer sur le seuil de la chambre, et du seul froncement de son sourcil, comme le Jupiter olympien, il faisait tomber le courroux et glacer le courage des divinités contraires à sa chère Ilion. La chanoinesse avait cependant entamé plusieurs fois la conversation avec la malade. Et comme les moments où elle pouvait la voir tête à tête étaient rares, elle avait mis le temps à profit en lui adressant des réflexions assez saugrenues qu'elle croyait très significatives. Mais Consuelo était si éloignée de l'ambition qu'on lui supposait qu'elle n'y avait rien compris. Son étonnement, son air de candeur et de confiance, désarmaient tout de suite la bonne chanoinesse, qui, de sa vie, n'avait pu résister à un accent de franchise ou à une caresse cordiale. Elle s'en allait, toute confuse, avouer sa défaite au chapelain, et le reste de la journée se passait à faire des résolutions pour le lendemain. Cependant, Albert, devinant fort bien ce manège, et voyant que Consuelo commençait à s'en étonner et à s'en inquiéter, prit le parti de le faire cesser. Il guetta un jour Wenceslava au passage, et pendant qu'elle croyait tromper sa surveillance en surprenant Consuelo seul de grand matin, il se montra tout à coup, au moment où elle mettait la main sur la clé pour entrer dans la chambre de la malade. « Ma bonne tante, lui dit-il en s'emparant de cette main et en la portant à ses lèvres, j'ai à vous dire bien bas une chose qui vous intéresse. C'est que la vie et la santé de la personne qui repose ici, près, me sont plus précieuses que ma propre vie et que mon propre bonheur. Je sais fort bien que votre confesseur vous fait un cas de conscience de contrarier mon dévouement pour elle et de détruire l'effet de mes soins. Sans cela, votre noble cœur n'eût jamais conçu la pensée de compromettre par des paroles amères et des reproches injustes le rétablissement d'une malade à peine hors de danger. Mais, puisque le fanatisme ou la petitesse d'un prêtre peuvent faire de tels prodiges que de transformer en cruauté aveugle la piété la plus sincère et la charité la plus pure, je m'opposerai de tout mon pouvoir au crime dont ma pauvre tante consent à se faire l'instrument. Je garderai ma malade la nuit et le jour, je ne la quitterai plus d'un instant. Et si malgré mon zèle on réussit à me l'enlever, je jure, par tout ce qu'il y a de plus redoutable à la croyance humaine, que je sortirai de la maison de mes pères pour n'y jamais rentrer. Je pense que quand vous aurez fait connaître ma détermination à monsieur le chapelain, il cessera de vous tourmenter et de combattre les généreux instincts de votre cœur maternel. » La chanoinesse, stupéfaite, ne put répondre à ce discours qu'en fondant en larmes. Albert l'avait emmenée à l'extrémité de la galerie afin que cette explication ne fût pas entendue de Consuelo. Elle se plaignit vivement du ton de révolte et de menace que son neveu prenait avec elle, et voulut profiter de l'occasion pour lui démontrer la folie de son attachement pour une personne d'aussi basse extraction que la Nina. « Ma tante, lui répondit Albert en souriant, vous oubliez que si nous sommes issus du sang royal des Podiebrades, nos ancêtres les monarques ne l'ont été que par la grâce des paysans révoltés et des soldats aventuriers. Un Podiebrade ne doit donc jamais voir, dans sa glorieuse origine, qu'un motif de plus pour se rapprocher du faible et du pauvre, puisque c'est là que sa force et sa puissance ont planté leurs racines. Il n'y a pas si longtemps qu'ils puissent déjà l'avoir oublié. » Quand Wenceslas raconta au chapelain cette orageuse conférence, il fut d'avis de ne pas exaspérer le jeune comte en insistant auprès de lui, et de ne pas le pousser à la révolte en tourmentant sa protégée. « C'est au comte Christian lui-même qu'il faut adresser vos représentations, dit-il. L'excès de votre tendresse a trop enhardi le fils. Que la sagesse de vos remontrances éveille enfin l'inquiétude du père, afin qu'il prenne à l'égard de la dangereuse personne des mesures décisives. « Croyez-vous donc, reprit la chanoinesse, que je ne me sois pas encore avisée de ce moyen? Mais hélas, mon frère a vieilli de 15 ans pendant les 15 jours de la dernière disparition d'Albert. Son esprit a tellement baissé qu'il n'est plus possible de lui faire rien comprendre à demi-mot. Il semble qu'il fasse une sorte de résistance aveugle et muette à l'idée d'un chagrin nouveau. Il se réjouit comme un enfant d'avoir retrouvé son fils et de l'entendre raisonner en apparence comme un homme sensé. Il le croit guéri radicalement et ne s'aperçoit pas que le pauvre Albert est en proie à un nouveau genre de folie plus funeste que l'autre. La sécurité de mon frère à cet égard est si profonde et il en jouit si naïvement que je ne me suis pas encore senti le courage de la détruire en lui ouvrant les yeux tout à fait sur ce qui se passe. Il me semble que cette ouverture, lui venant de vous, serait écoutée avec plus de résignation et qu'accompagnée de vos exhortations religieuses, elle serait plus efficace et moins pénible. « Une telle ouverture est trop délicate, répondit le chapelain, pour être abordée par un pauvre prêtre comme moi. Dans la bouche d'une sœur, elle sera beaucoup mieux placée, et votre seigneurie saura en adoucir l'amertume par les expressions d'une tendresse que je ne puis me permettre d'exprimer familièrement à l'auguste chef de la famille. » Ces deux graves personnages perdirent plusieurs jours à se renvoyer le soin d'attacher le grelot. Et pendant ces irrésolutions, où la lenteur et l'apathie de leurs habitudes trouvaient bien un peu leur compte, l'amour faisait de rapides progrès dans le cœur d'Albert. La santé de Consuelo se rétablissait à vue d'œil, et rien ne venait troubler les douceurs d'une intimité que la surveillance des argus les plus farouches n'eût pu rendre plus chaste et plus réservée qu'elle ne l'était, par le seul fait d'une pudeur vraie et d'un amour profond. Cependant, la bonne Amélie, ne pouvant plus supporter l'humiliation de son rôle, demandait vivement à son père de la reconduire à Prague. Le baron Frédéric, qui préférait le séjour des forêts à celui des villes, lui promettait tout ce qu'elle voulait, et remettait chaque jour au lendemain la notification et les apprêts de son départ. La jeune fille vit qu'il fallait brusquer les choses, et s'avisa d'un expédient inattendu. Elle s'entendit avec sa soubrette, jeune française, passablement fine et décidée. Et un matin, au moment où son père partait pour la chasse, elle le pria de la conduire en voiture au château d'une dame de leur connaissance, à qui elle devait depuis longtemps une visite. Le baron eut bien un peu de peine à quitter son fusil et sa gibecière pour changer sa toilette et l'emploi de sa journée. Mais il se flatta que cet acte de condescendance rendrait Amélie moins exigeante, que la distraction de cette promenade emporterait sa mauvaise humeur et l'aiderait à passer, sans trop murmurer, quelques jours de plus au château des Géants. Quand le brave homme avait une semaine devant lui, il croyait avoir assuré l'indépendance de toute sa vie. Sa prévoyance n'allait point au-delà. Il se résigna donc à renvoyer Saphir et Panthère au chenil, et Attila, le faucon, retourna sur son perchoir, d'un air mutin et mécontent, qui arracha un gros soupir à son maître. Enfin, le baron monte en voiture avec sa fille, et au bout de 3 tours de roue, s'endort profondément, selon son habitude en pareilles circonstances. Aussitôt, le cocher reçoit d'Amélie l'ordre de tourner bride et de se diriger vers la poste la plus voisine. On y arrive après 2 heures de marche rapide, et lorsque le baron ouvre les yeux, il voit des chevaux de poste attelés à son brancard, tout prêts à l'emporter sur la route de Prague. « Eh bien, qu'est-ce ? Où sommes-nous ? Où allons-nous ? Amélie, ma chère enfant, quelle distraction est la vôtre ? Que signifie ce caprice ou cette plaisanterie ?» À toutes les questions de son père, la jeune baronne ne répondait que par des éclats de rire et des caresses enfantines. Enfin, quand elle vit le postillon à cheval et la voiture rouler légèrement sur le sable de la grande route, elle prit un air sérieux et d'un ton fort décidé, elle parla ainsi. « Cher papa, ne vous inquiétez de rien. Tous nos paquets ont été fort bien faits. Les coffres de la voiture sont remplis de tous les effets nécessaires au voyage. Il ne reste au château des Géants que vos armes et vos bêtes, dont vous n'avez que faire à Prague, et que d'ailleurs on vous renverra dès que vous les redemanderez. Une lettre sera remise à mon oncle Christian à l'heure de son déjeuner. Elle est tournée de manière à lui faire comprendre la nécessité de notre départ, sans l'affliger trop, et sans le fâcher contre vous ni contre moi. Maintenant, je vous demande humblement pardon de vous avoir trompé. Mais il y avait près d'un mois que vous aviez consenti à ce que j'exécute en cet instant. Je ne contrarie donc pas vos volontés en retournant à Prague dans un moment où vous n'y songiez pas précisément, mais où vous êtes enchanté, je gage, d'être délivré de tous les ennuis qu'entraînent la dissolution et les préparatifs d'un déplacement. Ma position devenait intolérable, et vous ne vous en aperceviez pas. Voilà mon excuse et ma justification. Daignez m'embrasser et ne pas me regarder avec ces yeux courroucés qui me font peur. » En parlant ainsi, Amélie étouffait, ainsi que sa suivante, une forte envie de rire. Car jamais le baron n'avait eu un regard de colère pour qui que ce fût, à plus forte raison pour sa fille chérie. Il roulait en ce moment de gros yeux effarés et, il faut l'avouer, un peu hébété par la surprise. S'il éprouvait quelque contrariété de se voir jouer de la sorte, et un chagrin réel de quitter son frère et sa sœur aussi brusquement sans leur avoir dit adieu, il était si émerveillé de ce qui arrivait que son mécontentement se changeait en admiration, et il ne pouvait que dire « Mais comment avez-vous fait pour arranger tout cela sans que j'en aie eu le moindre soupçon ? Pardieu, j'étais loin de croire, en ôtant mes bottes et en faisant rentrer mon cheval, que je partais pour Prague et que je ne dînerais pas ce soir avec mon frère. Voilà une singulière aventure, et personne ne voudra me croire quand je la raconterai. Mais où avez-vous mis mon bonnet de voyage, Amélie ? Et comment voulez-vous que je dorme dans la voiture avec ce chapeau galonné sur les oreilles ?»« Votre bonnet ? Le voici, cher papa !» dit la jeune espiègle en lui présentant sa toque fourrée, qu'il mit à l'instant sur son chef avec une naïve satisfaction. « Mais ma bouteille de voyage, vous l'avez oubliée certainement, méchante petite fille !»« Oh, certainement non !» s'écria-t-elle en lui présentant un large flacon de cristal garni de cuir de Russie et monté en argent. « Je l'ai rempli moi-même du meilleur vin de Hongrie qui soit dans la cave de ma tante. Goûtez plutôt, c'est celui que vous préférez. »« Et ma pipe? Et mon sac de tabac turc ?»« Rien ne manque, » dit la soubrette. « Monsieur le baron trouvera tout dans les poches de la voiture. » Nous n'avons rien oublié, rien négligé pour qu'il fît le voyage agréablement. « Ah, la bonne heure !» dit le baron en chargeant sa pipe. « Ce n'en est pas moins une grande scélératesse que vous faites là, ma chère Amélie. Vous rendez votre père ridicule, et vous êtes cause que tout le monde va se moquer de moi. »« Cher papa, » répondit Amélie. C'est moi qui suis bien ridicule aux yeux du monde quand je parais m'obstiner à épouser un aimable cousin qui ne daigne pas me regarder et qui, sous mes yeux, fait une cour assidue à ma maîtresse de musique. Il y a assez longtemps que je subis cette humiliation et je ne sais trop s'il est beaucoup de filles de mon rang, de mon air et de mon âge qui n'en eussent pas pris un débit plus sérieux. Ce que je sais fort bien, c'est qu'il y a des filles qui s'ennuient moins que je ne le fais depuis 18 mois, et qui, pour en finir, prennent la fuite ou se font enlever. Moi, je me contente de fuir en enlevant mon père. C'est plus nouveau et plus honnête. Qu'en pense mon cher papa ? Tu as le diable au corps, répondit le baron en embrassant sa fille. Et il fit le reste du voyage fort gaiement, buvant, fumant et dormant tour à tour, sans se plaindre et sans s'étonner davantage. Cet événement ne produisit pas autant d'effet dans la famille que la petite baronne s'en était flattée. Pour commencer par le comte Albert, il eût pu passer une semaine sans y prendre garde, et lorsque la chanoinesse le lui annonça, il se contenta de dire « Voici la seule chose spirituelle que la spirituelle Amélie ait su faire depuis qu'elle a mis le pied ici. Quant à mon bon oncle, j'espère qu'il ne sera pas longtemps sans nous revenir. « Moi, je regrette mon frère, » dit le vieux Christian, « parce qu'à mon âge, on compte par semaine et par jour. Ce qui ne vous paraît pas longtemps, Albert, peut-être pour moi l'éternité. » Et je ne suis pas aussi sûre que vous de revoir mon pacifique et insouciant Frédéric. Allons, Amélie l'a voulu, ajouta-t-il en repliant et jetant de côté avec un sourire la lettre singulièrement cajoleuse et méchante que la jeune baronne lui avait laissée. Rancune de femme ne pardonne pas. Vous n'étiez pas nés l'un pour l'autre, mes enfants, et mes doux rêves se sont envolés. En parlant ainsi, le vieux comte regardait son fils avec une sorte d'enjouement mélancolique, comme pour surprendre quelques traces de regret dans ses yeux. Mais il n'en trouva aucune. Et Albert, en lui pressant le bras avec tendresse, lui fit comprendre qu'il le remerciait de renoncer à des projets si contraires à son inclination. « Que ta volonté soit faite, mon Dieu, » reprit le vieillard, « et que ton cœur soit libre, mon fils. » Tu te portes bien. Tu parais calme et heureux désormais parmi nous. Je mourrai consolé. Et la reconnaissance de ton père te portera bonheur après notre séparation. Ne parlez pas de séparation, mon père, s'écria le jeune comte, dont les yeux se remplirent subitement de larmes. Je n'ai pas la force de supporter cette idée. La chanoinesse, qui commençait à s'attendrir, fut aiguillonnée en cet instant par un regard du chapelain, qui se leva et sortit du salon avec une discrétion affectée. c'était lui donner l'ordre et le signal. Elle pensa, non sans douleur et sans effroi, que le moment était venu de parler. Et, fermant les yeux comme une personne qui se jette par la fenêtre pour échapper à l'incendie, elle commença ainsi, en balbutiant et en devenant plus pâle que de coutume. « Certainement, Albert chérit tendrement son père, et il ne voudrait pas lui causer un chagrin mortel. » Albert leva la tête et regarda sa tante avec des yeux si clairs et si pénétrants qu'elle fut toute décontenancée et n'en put dire davantage. Le vieux comte parut ne pas avoir entendu cette réflexion bizarre, et dans le silence qui suivit, la pauvre Wenceslawa resta tremblante sous le regard de son neveu, comme la perdrix sous l'arrêt du chien qui la fascine et l'enchaîne. Mais le comte Christian, sortant de sa rêverie au bout de quelques instants, répondit à sa sœur comme si elle eût continué de parler, ou comme s'il eût pu lire dans son esprit les révélations qu'elle voulait lui faire. « Chère sœur, dit-il, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de ne pas vous tourmenter de choses auxquelles vous n'entendez rien. Vous n'avez su de votre vie ce que c'était qu'une inclination de cœur, et l'austérité d'une chanoinesse n'est pas la règle qui convient à un jeune homme. « Dieu vivant !» murmura la chanoinesse bouleversée. « Ou mon frère ne veut pas me comprendre, ou sa raison et sa piété l'abandonnent. Serait-il possible qu'il voulût encourager par sa faiblesse ou traiter légèrement... « Quoi, ma tante ?» dit Albert d'un ton ferme et avec une physionomie sévère. « Parlez, puisque vous êtes condamnée à le faire. Formulez clairement votre pensée. Il faut que cette contrainte finisse et que nous nous connaissions les uns les autres. » « Non, ma sœur, ne parlez pas, répondit le comte Christian. Vous n'avez rien de neuf à me dire. Il y a longtemps que je vous entends à merveille sans en avoir l'air. Le moment n'est pas venu de s'expliquer sur ce sujet. Quand il en sera temps, je sais ce que j'aurai à faire. » Il affecta aussitôt de parler d'autre chose et laissa la chanoinesse consternée. Albert, incertain et troublé. Quand le chapelain sut de quelle manière le chef de la famille avait reçu l'avis indirect qu'il lui avait fait donner, il fut saisi de crainte. Le comte Christian, sous un air d'indolence et d'irrésolution, n'avait jamais été un homme faible. Parfois, on l'avait vu sortir d'une sorte de somnolence par des actes de sagesse et d'énergie. Le prêtre eut peur d'avoir été trop loin et d'être réprimandé. Il s'attacha donc à détruire son ouvrage au plus vite et à persuader à la chanoinesse de ne plus se mêler de rien. 15 jours s'écoulèrent de la manière la plus paisible, sans que rien pût faire pressentir à Consuelo qu'elle était un sujet de trouble dans la famille. Albert continua ses soins assidus auprès d'elle, et lui annonça le départ d'Amélie comme une absence passagère dont il ne lui fit pas soupçonner le motif. Elle commença à sortir de sa chambre, et la première fois qu'elle se promena dans le jardin, le vieux Christian soutint de son bras faible et tremblant les pas chancelants de la convalescente. Chapitre 51. Ce fut un bien beau jour pour Albert que celui où il vit sa Consuelo reprendre à la vie, appuyé sur le bras de son vieux père et lui tendre la main en présence de sa famille en disant avec un sourire ineffable « Voici celui qui m'a sauvé et qui m'a soigné comme si j'étais sa sœur. » Mais ce jour, qui fut l'apogée de son bonheur, changea tout à coup, et plus qu'il ne l'avait voulu prévoir, ses relations avec Consuelo. Désormais associée aux occupations et rendue aux habitudes de la famille, elle ne se trouva plus que rarement seule avec lui. Le vieux comte, qui paraissait avoir pris pour elle une prédilection plus vive qu'avant sa maladie, l'entourait de ses soins avec une sorte de galanterie paternelle, dont elle se sentait profondément touchée. La chanoinesse, qui ne disait plus rien, ne s'en faisait pas moins un devoir de veiller sur tous ses pas et de venir se mettre entière dans tous ses entretiens avec Albert. Enfin, comme celui-ci ne donnait plus aucun signe d'aliénation mentale, on se livra au plaisir de recevoir et même d'attirer les parents et les voisins longtemps négligés. On mit une sorte d'ostentation naïve et tendre à leur montrer combien le jeune comte de Rudolfstadt était redevenu sociable et gracieux. Et Consuelo, paraissant exiger de lui, par ses regards et son exemple, qu'il remplit le vœu de ses parents, il lui fallut bien reprendre les manières d'un homme du monde et d'un châtelain hospitalier. Cette rapide transformation lui coûta extrêmement. Il s'y résigna pour obéir à celle qu'il aimait, mais il eût voulu en être récompensé par des entretiens plus longs et des épanchements plus complets. Il supportait patiemment des journées de contrainte et d'ennui pour obtenir d'elle le soir un mot d'approbation et de remerciement. Mais quand la chanoinesse venait, comme un spectre importun, se placer entre eux et lui arracher cette pure jouissance, il sentait son âme s'aigrir et sa force l'abandonner. Il passait des nuits cruelles, et souvent il s'approchait de la citerne, qui n'avait pas cessé d'être pleine et limpide depuis le jour où il l'avait remontée, portant Consuelo dans ses bras. Plongé dans une morne rêverie, il maudissait presque le serment qu'il avait fait de ne plus retourner à son ermitage. Il s'effrayait de se sentir malheureux et de ne pouvoir ensevelir le secret de sa douleur dans les entrailles de la terre. L'altération de ses traits, après ses insomnies, le retour passager, mais de plus en plus fréquent, de son air sombre et distrait, ne pouvait manquer de frapper ses parents et son ami. Mais celle-ci avait trouvé le moyen de dissiper ses nuages et de reprendre son empire chaque fois qu'elle était menacée de le perdre. Elle se mettait à chanter, et aussitôt le jeune comte, charmé ou subjugué, se soulageait par des pleurs ou s'animait d'un nouvel enthousiasme. Ce remède était infaillible, et quand il pouvait lui dire quelques mots à la dérobée, « Consuelo !» s'écriait-il. « Tu connais le chemin de mon âme, tu possèdes la puissance refusée aux vulgaires, et tu la possèdes plus qu'aucun être vivant en ce monde. Tu parles le langage divin, tu sais exprimer les sentiments les plus sublimes et communiquer les émotions puissantes de ton âme inspirée. Chante donc toujours quand tu me vois succomber. Les paroles que tu prononces dans tes chants ont peu de sens pour moi. » Elles ne sont qu'un thème abrégé, une indication incomplète, sur lesquelles la pensée musicale s'exerce et se développe. Je les écoute à peine. Ce que j'entends, ce qui pénètre au fond de mon cœur, c'est ta voix, c'est ton accent, c'est ton inspiration. La musique dit tout ce que l'âme rêve et pressent de plus mystérieux et de plus élevé. C'est la manifestation d'un ordre d'idées et de sentiments supérieurs à ce que la parole humaine pourrait exprimer. C'est la révélation de l'infini. Et quand tu chantes, je n'appartiens plus à l'humanité que parce que l'humanité a puisé de divin et d'éternel dans le sein du Créateur. Tout ce que ta bouche me refuse de consolation et d'encouragement dans le cours ordinaire de la vie, tout ce que la tyrannie sociale défend à ton cœur de me révéler, tes chants me le rendent au centuple. Tu me communiques alors tout ton être, et mon âme te possède dans la joie et dans la douleur, dans la foi et dans la crainte, dans le transport de l'enthousiasme et dans les langueurs de la rêverie. Quelquefois, Albert disait ces choses à Consuelo en espagnol, en présence de sa famille. Mais la contrariété évidente que donnait à la chanoinesse ces sortes d'aparté et le sentiment de la convenance empêchaient la jeune fille d'y répondre. Un jour, enfin, elle se trouva seule avec lui au jardin, et comme il lui parlait encore du bonheur qu'il éprouvait à l'entendre chanter, « Puisque la musique est un langage plus complet et plus persuasif que la parole, » lui dit-elle. « Pourquoi ne le parlez-vous jamais avec moi, vous qui le connaissez peut-être encore mieux ?»« Que voulez-vous dire, Consuelo ? s'écria le jeune comte frappé de surprise. « Je ne suis musicien qu'en vous écoutant. » « Ne cherchez pas à me tromper, » reprit-elle. « Je n'ai jamais entendu tirer d'un violon une voix divinement humaine qu'une seule fois dans ma vie. Et c'était par vous, Albert. C'était dans la grotte du Schreckenstein. Je vous ai entendu ce jour-là, avant que vous m'ayez vu. J'ai surpris votre secret. Il faut que vous me le pardonniez et que vous me fassiez entendre encore cet admirable chant, dont j'ai retenu quelques phrases, et qui m'a révélé des beautés inconnues dans la musique. » Consuelo essaya à demi-voix ces phrases, dont elle se souvenait confusément et qu'Albert reconnut aussitôt. « C'est un cantique populaire sur des paroles hussitiques, » lui dit-il. « Les vers sont de mon ancêtre Inchko Podiebrad, le fils du roi Georges, et l'un des poètes de la patrie. Nous avons une foule de poésies admirables de Streil, de Simon Lomnicki et de plusieurs autres, qui ont été mises à l'index par la police impériale. Ces chants religieux et nationaux, mis en musique par les génies inconnus de la Bohème, ne se sont pas tous conservés dans la mémoire des bohémiens. Le peuple en a retenu quelques-uns, et Zenko, qui est doué d'une mémoire et d'un sentiment musical extraordinaire, en sait par tradition un assez grand nombre que j'ai recueilli et noté. Ils sont bien beaux, et vous aurez du plaisir à les connaître. Mais je ne pourrai vous les faire entendre que dans mon ermitage. C'est là qu'est mon violon et toute ma musique. J'ai des recueils manuscrits fort précieux des vieux auteurs catholiques et protestants. Je gage que vous ne connaissiez ni Josquin, dont Luther nous a transmis plusieurs thèmes dans ses chorales, ni Claude le Jeune, ni Arcadelt, ni Georges Rowe, ni Benoît Ducis, ni Jean de Wès. Cette curieuse exploration ne vous engagera-t-elle pas, cher Consuelo, à venir revoir ma grotte, dont je suis exilé depuis si longtemps, et visiter mon église, que vous ne connaissez pas encore non plus? » Cette proposition, tout en piquant la curiosité de la jeune artiste, fut écoutée en tremblant. Cette affreuse grotte lui rappelait des souvenirs qu'elle ne pouvait se retracer sans frissonner, et l'idée d'y retourner seule avec Albert, malgré toute la confiance qu'elle avait prise en lui, lui causa une émotion pénible dont il s'aperçut bien vite. « Vous avez de la répugnance pour ce pèlerinage, que vous m'aviez pourtant promis de renouveler. N'en parlons plus, » dit-il. « Fidèle à mon serment, je ne le ferai pas sans vous. » « Vous me rappelez le mien, Albert, » reprit-elle. « Je le tiendrai dès que vous l'exigerez. Mais, mon cher docteur, vous devez songer que je n'ai pas encore la force nécessaire. Ne voudrez-vous donc pas auparavant me faire voir cette musique curieuse et entendre cet admirable artiste qui joue du violon beaucoup mieux que je ne chante ?»« Je ne sais pas si vous raillez, chère sœur, mais je sais bien que vous ne m'entendrez pas ailleurs que dans ma grotte. C'est là que j'ai essayé de faire parler selon mon cœur cet instrument dont j'ignorais le sens, après avoir eu pendant plusieurs années un professeur brillant et frivole, chèrement payé par mon père. C'est là que j'ai compris ce que c'est que la musique, et quel sacrilège d'érision une grande partie des hommes y a substitué. Quant à moi, j'avoue qu'il me serait impossible de tirer un son de mon violon, si je n'étais prosterné en esprit devant la divinité. Même si je vous voyais froide à mes côtés, attentive seulement à la forme des morceaux que je joue, et curieuse d'examiner le plus ou moins de talent que je puisse avoir, je jouerai si mal que je doute que vous puissiez m'écouter. Je n'ai jamais, depuis que je sais un peu m'en servir, touché cet instrument, consacré pour moi à la louange du Seigneur ou au cri de ma prière ardente, sans me sentir transporté dans le monde idéal, et sans obéir au souffle d'une sorte d'inspiration mystérieuse que je ne puisse appeler à mon gré, et qui me quitte sans que j'aie aucun moyen de la soumettre et de la fixer. Demandez-moi la plus simple phrase quand je suis de sang-froid, et malgré le désir que j'aurai de vous complaire, ma mémoire me trahira, mes doigts deviendront aussi incertains que ceux d'un enfant qui essaie ses premières notes. « Je ne suis pas indigne, » répondit Consuelo, attentive et pénétrée, « de comprendre votre manière d'envisager la musique. J'espère bien pouvoir m'associer à votre prière avec une âme assez recueillie et assez fervente pour que ma présence ne refroidisse pas votre inspiration. Ah, pourquoi mon maître Porpora ne peut-il entendre ce que vous dites sur l'art sacré, mon cher Albert? Il serait à vos genoux. Et pourtant, ce grand artiste lui-même ne pousse pas la rigidité aussi loin que vous. Et il croit que le chanteur et le virtuose doivent puiser le souffle qui les anime dans la sympathie et l'admiration de l'auditoire qui les écoute. C'est peut-être que le Porpora, quoi qu'il en dise, confond en musique le sentiment religieux avec la pensée humaine. C'est peut-être aussi qu'il entend la musique sacrée en catholique. Et si j'étais à son point de vue, je raisonnerais comme lui. Si j'étais en communion de foi et de sympathie avec un peuple professant un culte qui serait le mien, je chercherais, dans le contact de ces âmes animées du même sentiment religieux que moi, une inspiration que jusqu'ici j'ai été forcé de chercher dans la solitude et que par conséquent j'ai imparfaitement rencontrée. Si j'ai jamais le bonheur d'unir, dans une prière selon mon cœur, ta voix divine, Consuelo, aux accents de mon violon, sans aucun doute je m'élèverai plus haut que je n'ai jamais fait, et ma prière sera plus digne de la divinité. Mais n'oublie pas, cher enfant, que jusqu'ici mes croyances ont été abominables à tous les êtres qui m'environnent. Ce qu'elles n'auraient pas scandalisé en aurait fait un sujet de moquerie. Voilà pourquoi j'ai caché, comme un secret entre Dieu, le pauvre Zanko, et moi, le faible don que je possède. Mon père aime la musique et voudrait que cet instrument, aussi sacré pour moi que les sistres des mystères d'Éleusis, servît à son amusement. Que deviendrais-je, grand Dieu, s'il me fallait accompagner une cavatine à Amélie? Et que deviendrait mon père si je lui jouais un de ces vieux airs hussitiques qui ont mené tant de bohémiens aux mines ou aux supplices? Ou un cantique plus moderne de nos pères luthériens dont il rougit de descendre? Hélas, Consuelo, je ne sais guère de choses plus nouvelles. Il en existe sans doute, et d'admirables. Ce que vous m'apprenez de Handel et des autres grands maîtres dont vous êtes nourri me paraît supérieur, à beaucoup d'égards, à ce que j'ai à vous enseigner à mon tour. Mais pour connaître et apprendre cette musique, il eût fallu me mettre en relation avec un nouveau monde musical. Et c'est avec vous seul que je pourrais me résoudre à y rentrer, pour y chercher les trésors longtemps ignorés ou dédaignés que vous allez verser sur moi à pleine main. « Et moi, » dit Consuelo en souriant, « je crois que je ne me chargerai point de cette éducation. Ce que j'ai entendu dans la grotte est si beau, si grand, si unique en son genre, que je craindrais de mettre du gravier dans une source de cristal et de diamants. « Oh, Albert, je vois bien que vous en savez plus que moi-même en musique. Mais maintenant, ne me direz-vous rien de cette musique profane dont je suis forcé de faire profession? Je crains de découvrir que, dans celle-là comme dans l'autre, j'ai été jusqu'à ce jour au-dessous de ma mission, en y portant la même ignorance ou la même légèreté. » « Bien loin de le croire, Consuelo, je regarde votre rôle comme sacré. Et comme votre profession est la plus sublime qu'une femme puisse embrasser, votre âme est la plus digne d'en remplir le sacerdoce. » « Attendez, attendez, cher comte, » reprit Consuelo en souriant. « De ce que je vous ai parlé souvent du couvent où j'ai appris la musique et de l'église où j'ai chanté les louanges du Seigneur, vous en concluez que je m'étais destiné au service des autels ou aux modestes enseignements du cloître. Mais si je vous apprenais que la Zingarella, fidèle à son origine, était vouée au hasard dès son enfance et que toute son éducation a été un mélange de travaux religieux et profanes auxquels sa volonté portait une égale ardeur, insouciante d'aboutir au monastère ou au théâtre, certain que Dieu a mis son sceau sur ton front, et qu'il t'a voué à la sainteté dès le ventre de ta mère. Je m'inquiéterai fort peu pour toi du hasard des choses humaines, et je garderai la conviction que tu dois être sainte sur le théâtre aussi bien que dans le cloître. » Et quoi, l'austérité de vos pensées ne s'effraierait pas du contact d'une comédienne ? À l'aurore des religions, reprit-il, le théâtre et le temple sont un même sanctuaire. Dans la pureté des idées premières, les cérémonies du culte sont le spectacle des peuples. Les arts prennent naissance au pied des autels. La danse elle-même, cet art aujourd'hui consacré à des idées d'impure volupté, est la musique des sens dans les fêtes des dieux. La musique et la poésie sont les plus hautes expressions de la foi. Et la femme, douée de génie et de beauté, est prêtresse, sibylle et initiatrice. À ces formes sévères et grandes du passé ont succédé d'absurdes et coupables distinctions. La religion romaine a proscrit la beauté de ses fêtes et la femme de ses solennités. Au lieu de diriger et d'ennoblir l'amour, elle l'a banni et condamné. La beauté, la femme et l'amour ne pouvaient perdre leur empire. Les hommes leur ont élevé d'autres temples, qu'ils ont appelés théâtres, et où nul autre dieu n'est venu présider. Est-ce votre faute, Consuelo, si ces gymnases sont devenus des antres de corruption ? La nature, qui poursuit ses prodiges sans s'inquiéter de l'accueil que recevront ses chefs-d'œuvre parmi les hommes. Vous avez formé pour briller entre toutes les femmes et pour répandre sur le monde les trésors de la puissance et du génie. Le cloître et le tombeau sont synonymes. Vous ne pouviez, sans commettre un suicide, ensevelir les dons de la Providence. Vous avez dû chercher votre essor dans un air plus libre. La manifestation est la condition de certaines existences. Le vœu de la nature les y pousse irrésistiblement. Et la volonté de Dieu, à cet égard, est si positive qu'il leur retire les facultés dont il les avait douées dès qu'elles en méconnaissent l'usage. L'artiste dépérit et s'éteint dans l'obscurité, comme le penseur s'égare et s'exaspère dans la solitude absolue, comme tout esprit humain se détériore et se détruit dans l'isolement et la claustration. Allez donc au théâtre, Consuelo, si vous voulez, et subissez-en l'apparente flétrissure avec la résignation d'une âme pieuse, destinée à souffrir, à chercher vainement sa patrie en ce monde d'aujourd'hui, mais forcée de fuir les ténèbres qui ne sont pas l'élément de sa vie, et hors desquels le souffle de l'Esprit-Saint la rejette impérieusement. » Albert parla longuement ainsi avec animation, entraînant Consuelo à pas rapides sous les ombrages de la Garenne. Il n'eut pas de peine à lui communiquer l'enthousiasme qu'il portait dans le sentiment de l'art, et à lui faire oublier la répugnance qu'elle avait eue d'abord à retourner à la grotte. En voyant qu'il le désirait vivement, elle se mit à désirer elle-même de se retrouver seule assez longtemps avec lui pour entendre les idées que cet homme ardent et timide n'osait émettre que devant elle. C'était des idées bien nouvelles pour Consuelo, et peut-être l'étaient-elles tout à fait dans la bouche d'un patricien de ce temps et de ce pays. Elle ne frappait cependant la jeune artiste que comme une formule franche et hardie des sentiments qui fermentaient en elle. Dévote et comédienne, elle entendait chaque jour la chanoinesse et le chapelain damner sans rémission les histrions et les baladins ses confrères. En se voyant réhabilitée, comme elle croyait avoir droit de l'être, par un homme sérieux et pénétré, elle sentit sa poitrine s'élargir et son cœur y battre plus à l'aise, comme s'il l'eût fait entrer dans la véritable région de sa vie. Ses yeux s'humectaient de larmes et ses joues brillaient d'une vive et sainte rougeur lorsqu'elle aperçut au fond d'une allée la chanoinesse qui la cherchait. « Ah, ma prêtresse !» lui dit Albert en serrant contre sa poitrine ce bras enlacé au sien. « Vous viendrez prier dans mon église. »« Oui, » lui répondit-elle, « j'irai certainement. »« Et quand donc ?»« Quand vous voudrez. jugez-vous que je sois de force à entreprendre ce nouvel exploit ? Oui, car nous irons au Schreckenstein en plein jour, et par une route moins dangereuse que la citerne. Vous sentez-vous le courage d'être levé demain avec l'aube, et de franchir les portes aussitôt qu'elles seront ouvertes ? Je serai dans ces buissons, que vous voyez d'ici au flanc de la colline, là où vous apercevez une croix de pierre, et je vous servirai de guide. Eh bien, je vous le promets, répondit Consuelo, non sans un dernier battement de cœur. Il fait bien frais ce soir pour une aussi longue promenade, dit la chanoinesse en les abordant. Albert ne répondit rien. Il ne savait pas feindre. Consuelo, qui ne se sentait pas troublé par le genre d'émotion qu'elle éprouvait, passa hardiment son autre bras sous celui de la chanoinesse et lui donna un gros baiser sur l'épaule. Wenceslao eût bien voulu lui battre froid, mais elle subissait malgré elle l'ascendant de cette âme droite et affectueuse. Elle soupira, et en rentrant, elle alla dire une prière pour sa conversion.